L'Évangile a de quoi nous surprendre pour nous qui avons une mentalité moderne et individualiste et qui ne voyons pas les conséquences des actions des autres sur nous-mêmes. De quoi s'agit-il, les deux exemples que Jésus donne dans l'Évangile? Il dit, la première chose, c'est voilà, la méchanceté de Pilate, qu'on savait très cruel par ailleurs, et qui fait périr ses Galiléens. Et puis, ensuite, ces malheureux qui sont écrasés par la tour de Siloé. La méchanceté, le malheur. La première chose qu'on peut tirer de cet évangile, c'est qu'il y a une déconnexion entre nos actes personnels et la méchanceté et le malheur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous sommes méchants qu'on va subir la méchanceté et le malheur. Et ça, c'est important, parce que pour nous, ça nous paraît assez évident, mais dans une mentalité de l'Ancien Testament, c'est absolument pas évident. Vous vous rappelez l'aveugle né, l'aveugle de naissance, dans l'Évangile, et les apôtres qui disent « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ?» S'il m'arrive quelque chose, c'est que c'est moi qui ai péché. On le voit dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a trois personnes qui sont envoyées à Job, c'est un conte inspiré, etc., et qui disent, voilà, mais en fait, c'est toi, si t'arrives tous ces malheurs, etc., c'est que toi, t'as fait quelque chose. Et parfois, on le pense. Et Jésus dit non. Croyez-vous qu'ils étaient de moins bons Galiléens que les autres? Croyez-vous que, voilà, ils étaient, parce qu'ils étaient mauvais, ils ont subi ce sort-là? Pas du tout. C'est-à-dire, donc, premièrement, déconnexion de ce qu'on peut vivre dans notre vie, de malheur, d'épreuves, etc., et de qui nous sommes. C'est quand même une grande... C'est quand même pas banal, je veux dire, pour quelqu'un de l'Ancien Testament, c'est quand même un avant et un après, ce passage-là. Et à la fois, une déconnexion et une connexion. C'est-à-dire, une connexion de dire que nos actes retentissent au-delà de nous-mêmes. Que nos actes retentissent au-delà de nous-mêmes. Une âme qui s'élève élève le monde. Et ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience. C'est-à-dire, si, au fond, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne comprenez pas la leçon qui est donnée à travers ces épreuves qu'ont subies ces gens, eh bien, d'une certaine manière, vous serez entraînés par les conséquences de vos actes. Nous portons, oui, d'autres portent les conséquences de nos actes. On le voit dans une famille, on le voit dans une communauté, on le voit voilà, dans l'église, etc. Les actes de certains retentissent sur tous. Et on le voit, par exemple, dans la première lecture. La première lecture, cet appel de Moïse, on connaît bien le buisson ardent, Moïse qui paissait le troupeau de son beau-père Jéthro, qui était un païen, un prêtre païen, etc., et qui voit, qui appelle l'attention, etc., quelque chose qui brille, quelque chose qui brûle, que bon, ils disent, on va faire un détour. Et du buisson, il est appelé. Et de sa réponse à l'appel de Dieu, ben, les conséquences sur les autres seront immenses. C'est-à-dire, on peut voir de façon aussi très positive les conséquences de nos actes sur les autres. Je vais plutôt souligner l'aspect négatif, parce que l'Évangile en parle. Mais de façon très positive, la réponse de Moïse à l'appel de Dieu, ben on en fait encore mémoire aujourd'hui. Donc, et le saint Paul, quand il parle justement de la Pâque, ben, s'il n'y avait pas eu la Pâque, la Pâque où Jésus avait donné son corps et son sang, et qui est l'accomplissement de la Pâque, où le peuple est sorti de l'esclavage pour aller vers la liberté, donc si Moïse n'avait pas répondu à son appel, vous voyez les conséquences jusqu'à maintenant que ça aurait eu. Donc c'est intéressant, nous sommes, comme dit saint Paul, membres les uns des autres. Et dans cette mentalité moderne, très individualiste, où non, chacun, c'est moi qui fais, etc., ben, on perd de vue ça, mais au fond, oui, ben, ces Galiléens, ils n'étaient peut-être pas plus de grands pécheurs que tous les autres Galiléens, et, entre guillemets, et que vous. Bon, mais il leur est arrivé ça. Donc, il est temps encore de vous convertir, tournez-vous vers le Seigneur, et donc vous serez disponibles. Il y aura un bien qui se fera du fait de votre conversion. Ton conversion, c'est métanoïa, c'est se tourner vers. Ça veut dire, on se tourne vers le Seigneur. Mais du coup, il y aura un bien qui se... De notre conversion, de l'accueil de la parole de Dieu, de l'accueil de la miséricorde de Dieu dans notre vie, dépend des grâces pour d'autres. Parce que nous sommes liés. Nous sommes membres les uns des autres. Ça, on a du mal à se le mettre dans la tête. Hein. On a vraiment du mal à se le mettre dans la tête parce qu'on se dit, on prend peut-être pas conscience à quel point, justement, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Vous voyez la communion des saints, quand on invoque les saints, etc. C'est que c'est des communions de ceux qui sont au ciel, non seulement les saints canonisés, mais tous ceux dont nous pensons qu'ils sont en communion avec Dieu, bien du coup on les invoque parce qu'on sait aussi qu'il y a un lien entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Nous sommes liés. Et vous voyez souvent dans des églises de campagne, alors c'est peut-être pas le cas, bon ici on n'est pas à la campagne, avant c'était la campagne, mais dans les églises, vous passez par le cimetière pour rentrer dans l'église. Voire dans des églises elles-mêmes, il y a des gens inhumés, enterrés. Pourquoi ? Pour dire, les défunts sont en communion avec nous vivants. C'est ça que ça veut dire. Ils sont en communion avec nous vivants. Donc, c'est bien d'avoir, et je trouve que notre foi nous permet de voir les choses dans une unité. Et donc, ça nous soutient de dire qu'aussi, nous portons dans notre combat spirituel, nous méritons d'une certaine manière la grâce pour d'autres. Ce n'est pas juste un combat personnel et portatif, comme on le voit dans nos sociétés, c'est mon combat. Mais non, il y a quelque chose qui se joue au-delà de nous-mêmes. Alors, c'est bien d'en faire mémoire, c'est bien de nous le rappeler, de demander d'avoir... Voilà, ce temps qui nous est donné, avec la parabole du figuier, c'est dire, ben non, maître, laisse-le encore cette année, je bêcherai, je mettrai du fumier, et on verra s'il donnera du fruit à l'avenir. C'est-à-dire, ce figuier qui sera maudit, vous vous rappelez dans l'évangile, je crois que c'est Marc et Matthieu, au moment de la Passion, ben, le figuier est desséché. C'est intéressant de faire le lien entre ce figuier-là et le figuier desséché. Voilà, c'est le temps qui nous est donné, c'est un temps de préparation pour accueillir la visite du Seigneur. Et donc, chaque minute, il y a une forme de condensation du temps, il y a une forme d'urgence dans le temps chrétien. On est dans un temps fléché. C'est tout à fait différent du temps que peuvent avoir certaines conceptions asiatiques, où c'est un temps circulaire. On revient à la réincarnation. Nous croyons à la résurrection, ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Ça n'a rien à voir. La résurrection, c'est-à-dire que nous croyons qu'il y a un début, il y a une fin, puis qu'entre les deux, il y a une urgence. C'est ça que ça veut dire. Ben, convertis-toi, faut que tu bouges, là, parce que sinon, et à un moment donné, stop, on sonnera la fin de la partie. Quoi. Voilà, je trouve ça intéressant, c'est... De prendre conscience de cette urgence, de prendre conscience que nos vies engagent d'autres, hein, comme la vie de Moïse, comme la vie de Paul, comme évidemment comme la vie du Christ lui-même, c'est évident. Alors on va demander au Seigneur d'avoir un regard plus large, hein, et de voir aussi que nos péchés engagent d'autres, hein, retentissent négativement sur d'autres. Et donc la conversion, c'est aussi pour d'autres, pour que la communion puisse être au rendez-vous, là où nous sommes. Demandons pardon au Seigneur pour une vision trop étriquée de notre vie. Hein. Demandons-lui un regard plus ample, plus tourné vers lui, et pour que nous puissions avoir le courage d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.